Romains chapitre 3, versets 23 à 24. Il est dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Heureusement que le verset s'arrête pas là. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. On va aller un peu plus loin dans Éphésiens chapitre 1, un autre beau passage. On va lire les versets 13 à 14. Éphésiens 1, versets 13 à 14. Tu es là, tu es quelqu'un. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité et l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. On vient de fêter Pâques. Alors, on sait que Christ est mort, ressuscité pour nos péchés, pour notre salut. Ça, je pense que tout chrétien le sait. Mais parfois, est-ce qu'on apprécie le salut en profondeur? Parce que savoir juste qu'on est sauvé, c'est une chose. Mais savoir ce que Jésus a fait, et il y en a énormément des choses qui se sont passées à ce moment-là, ça donne une dimension au salut. Savoir être sauvé, c'est une chose, c'est bien. Enfin, moi, je suis content d'être sauvé. Mais savoir qu'il y a cette doctrine de la rédemption, ou du rachat, vous faites comme vous voulez, alors là, ça va apporter du détail. Et ça va permettre de comprendre aussi ce qui s'est passé à la croix et pour moi. C'est du temps qu'il faut prendre pour comprendre un peu mieux ce que Jésus a fait pour moi, pour que je puisse obtenir ce salut. Et c'est surtout, je pense au travers de la doctrine de la rédemption, c'est de savoir où j'étais et où je suis aujourd'hui. Et quand on voit le contraste, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi, eh bien, quelle grâce, quelle joie de pouvoir être sauvé. Donc, première chose qu'on peut voir dans la Bible, parce que je ne peux pas vous lire tous les versets d'un coup, mais la signification de la rédemption. Ça commence déjà dans l'Ancien Testament, où on voit que l'Ancien Testament rappelle que Israël appartenait à l'Éternel. C'était son peuple à lui, et il l'a racheté lorsqu'il est sorti de l'esclavage, quand il était en Égypte. Il a été racheté de cet esclavage, et le soir quand l'ange est passé pour tuer les premiers-nés, ces premiers-nés parmi les Hébreux ont été rachetés ce jour-là par le sang de l'agneau. Il y a déjà une idée de la croix à ce moment-là. Et puis plus tard, ils vont être rachetés chacun à leur tour parce qu'ils devaient payer une somme au sanctuaire. On voit ça dans Exode 13. Quand il y avait des dénombrements aussi, chaque Israélite qui avait 21 ans et plus devait payer un demi-cycle. Je ne sais pas exactement ce que ça vaut en euros, mais vous ferez le calcul tout à l'heure. Mais ils devaient faire cela pour racheter leur personne, et parce que sinon ils risquaient d'être frappés par une plaie de Dieu. J'ai toutes les références, si vous voulez, sur le petit papier que je laisse à la fin. C'était un impôt, mais qui était aussi considéré quelque part comme une forme d'expiation qui couvrait les péchés à ce moment-là. Mais ça se faisait par l'argent. Ce n'est pas les indulgences, ne confondez pas les deux. Le peuple était donc libéré de cette servitude, et Dieu a dit: maintenant je t'ai délivré de l'Égypte, mais maintenant tu deviens mon peuple. Il n'a pas délivré pour que vous fassiez ce que vous avez envie, il a décidé qu'il devenait son propre peuple. Il faut garder ça en tête, parce qu'on va comprendre tout à l'heure pourquoi. On a trois mots dans l'Ancien Testament qui parlent un peu de cette rédemption en hébreu. Alors tout à l'heure, il y a une interrogation écrite sur les mots hébreux, etc. Vous verrez, c'est marrant. Le premier, c'est Gaal. Le mot Gaal, c'était une obligation familiale de payer le prix d'un rachat. Le plus proche parent était responsable de racheter la propriété familiale qui avait changé de propriétaire, par exemple, et d'épouser la veuve d'un frère décédé sans laisser de postérité, afin de susciter une descendance au défunt. Par exemple, vous connaissez l'histoire de Ruth, qui a été racheté par Boaz. Un deuxième mot, c'est Pada. Son sens est celui de paiement d'une somme fixée, comme dans le cas d'une transaction commerciale, sans aucune considération de lien familial. Ce terme a plus de connotation de grâce que Gaal, parce qu'en fait, ça ne vous oblige pas de le faire. Autant le premier terme, vous étiez obligé de racheter, si c'était le cas se présenter, avec le mot Pada, il y a plein de versets, mais vous n'êtes pas obligé de le faire forcément. Il y a un peu plus de grâce. Puis un troisième mot, kopher, en hébreu, le mot renvoie à la somme versée pour le rachat d'une vie perdue. Vous voyez plusieurs versets, surtout dans la loi. Voilà trois mots qui étaient là en relation avec la rédemption, mais qui n'avaient pas beaucoup de lien avec le rachat comme nous on le comprend aujourd'hui, avec le péché. Peut-être qu'ils n'avaient pas besoin justement de le faire parce que eux, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Des sacrifices. Ils voyaient quelque part ce que le péché provoquait. Et quand vous partiez avec votre animal jusqu'à au tabernacle et puis ensuite au temple, vous compreniez la rédemption d'une certaine manière. C'est terrible quand même, hein, parce que vous passiez avec tout, devant tout le monde avec votre agneau, ce qu'il fallait pour refaire le... Mais vous disiez, j'ai péché. Ouais, j'ai péché. Ouais. Donc voilà un peu pour l'Ancien Testament, le mot Gaal, c'est... il remplissait d'une... Enfin, celui qui faisait Gaal, hein, qui rachetait, faisait un peu l'office prophétique, on pourrait dire, de ce que Jésus-Christ va faire plus tard, parce que lui, il nous a rachetés, tout simplement. Mais évidemment, il ne fait pas ce que Jésus a fait. Job, par exemple, avait un peu une connaissance de cette œuvre du Seigneur. Dans Job 19, 25 à 26, il est dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » Il avait déjà une idée de ce Rédempteur. Je ne sais pas s'il comprenait le rachat comme nous, nous le comprenons, mais il y avait déjà une idée. Ésaïe aussi, dans Ésaïe 43, 14, il dit « Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël, à cause de vous, etc., etc. » Un peu plus loin, dans Ésaïe 59, 20, il dit « Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob, qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. » Il y avait une idée hein, de cette rédemption, de ce rachat que Jésus allait faire un jour, mais ils n'avaient pas le recul que nous avons, nous, aujourd'hui. On a la chance d'avoir le Nouveau Testament, hein, quand il a péché un petit peu, hein, pataugé un petit peu avec l'Ancien Testament. La rédemption dans le Nouveau Testament, on peut trouver tout de suite une définition. Hein, c'est, alors le mot rédemption vient d'un dérivé latin, redemere, et qui traduit le grec lutrosis, on en parlait tout à l'heure, ou apolutrosis, important, mais pour ceux qui aiment le grec. La définition du rachat, c'est la libération par le paiement d'une rançon. Je suis libéré de mon esclavage, on va voir ça tout à l'heure, par le paiement d'une rançon. C'est une délivrance, tout simplement, de celui qui était esclave, ou peut-être qui était en prison, ou qui avait une dette à l'égard de quelqu'un, de payer pour que tout cela soit fini, et la personne pouvait être délivrée à ce moment-là. On commence à comprendre un peu la relation avec Jésus-Christ. Et la rédemption dans le salut, c'est tout simplement le rachat de la dette que j'ai contractée vis-à-vis de Dieu en tant que pécheur. Et cette dette est payée par Jésus-Christ, pas en argent, comme dans l'Ancien Testament, mais pas sa vie sur la croix. Ce rachat est devenu possible à cause de ce paiement d'une rançon. Dans Matthieu 20, 28, il est dit « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Nous, on aime bien être servi, non ? C'est bien d'être servi. Les gens viennent. Non, le Seigneur n'est pas venu pour cela. Lui, il est venu servir, lui qui était Dieu, mais pas seulement servir, enfin, ça nous a servi quelque part, évidemment, mais il a donné sa vie en rançon pour plusieurs, pour moi. Avant même que je naisse, il avait déjà donné sa vie pour que je puisse un jour fléchir le genou devant lui. Jésus est venu pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs, on voit ça aussi dans 1 Timothée 2, et cette rançon est exprimée dans la mort et dans le sang que Jésus-Christ a versé à Golgotha. Paul déclare que Jésus a fait pour nous notre rédemption. Il nous a rachetés. Là, on était incapable de nous sauver nous-mêmes. Il nous a rachetés par le prix qu'il a payé au travers de sa vie sur la croix. Formidable quand on y réfléchit. Hein. Moi, j'étais sauvé. Oui, mais quand j'essaie de comprendre que quelqu'un est mort, bon, on l'a un peu compris, mais qu'il n'y avait que cette solution et que c'était le seul moyen pour me sauver, et quand on comprend qui est allé sur cette croix-là, ça nous fait un peu réfléchir. Ça devrait nous produire un peu d'humilité, quelque part. L'objectif de ce rachat, c'est de nous libérer. Alors, de nous libérer de beaucoup de choses, de la mort, d'abord, hein, de cette mort éternelle, de la puissance de Satan, de la malédiction de la loi. Il y a énormément de choses qui se sont passées à ce moment-là. Nous, on est juste sauvés. Mais tout cela, c'est accompli. Comme autrefois, le sacrifice de l'agneau hein, avait délivré les Hébreux de l'ange et de Pharaon, aussi quelque part, ben, de la même manière, Christ nous a rachetés de toute iniquité. Il a sauvé le pécheur, hein, là où on était vraiment empêtré dans notre péché, lui a donné la somme, on pourrait dire d'une certaine manière, pour que nous puissions ne plus être dans cet état-là. On va rentrer plus en détail tout à l'heure. Paul nous dit hein, de nous livrer à notre Rédempteur dans 1 Corinthiens 6, 19. Et j'ai perdu, il n'est pas sur ma liste, c'est pas grave, vous direz. Ah si. Ne savez-vous pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Souvent, le chrétien se dit, ça y est, je suis sauvé, c'est la liberté. Non, non, j'appartiens comme Israël appartient à Dieu. Aujourd'hui, je suis la propriété exclusive de Dieu. Et on va en parler un peu plus tout à l'heure, mais il faut bien avoir ça en tête aujourd'hui. Donc la doctrine du rachat rappelle le prix de nos péchés. Parce que souvent, on demande pardon, Seigneur, pour nos péchés. Hop, c'est réglé. Mais si on était devant la croix, à mon avis, ça nous ferait un peu plus réfléchir de le voir souffrir pendant des heures, comme cela, agoniser. Et si en plus, on pouvait rentrer peut-être dans son cœur, dans son âme, parce que là, c'est là, à mon avis, que ça s'est passé le plus terrible, ça... On verrait l'horreur du péché, quelque part. Mais il l'a accepté pour nous, et on voit le prix du péché, mais aussi la nécessité là, de la croix. Il fallait que quelqu'un paye pour nous racheter de nos péchés. Deuxième chose qu'on peut voir par rapport à cette doctrine de la rédemption, c'est les étapes. Quelques étapes là-dedans. La première étape, c'est de comprendre notre condition en tant qu'homme pécheur. Hélas, beaucoup de gens qui se convertissent aujourd'hui parce que j'ai eu des sentiments, ça y est, je suis chrétien. Et trois semaines après, ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe parce que je n'arrive pas à suivre le Seigneur. Je pense qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils étaient réellement. Hein, parce que quelqu'un qui naît de nouveau, c'est quelqu'un qui a d'abord compris sa condition de pécheur et qui s'affole parce que c'est horrible de le savoir, en fait, et de le réaliser. Il est esclave du péché, nous l'a dit la Bible, dès le ventre de sa mère, disait David dans les psaumes, et par imputation d'Adam. J'ai beau faire quoi que je veux, je n'ai m'aider, je suis pécheur. J'ai rien fait encore. Après, je vais le prouver, hein, parce que papa, maman, ils vont le voir très vite, que je suis pécheur. Mais voilà, je suis paumé, là. Je ne peux rien faire, déjà. Deuxième chose, la Bible nous dit qu'on est esclave de la malédiction de la loi, même si on n'est plus sous la loi. Mais autrefois, la loi révélait le péché. Hein, elle disait, vous êtes pécheur, tu ne tueras pas, tu ne mentiras point, etc. Elle disait, voilà, tu vois ce que tu fais, en fait. Et donc... révéler le péché, mais quand celui qui avait compris que ça c'était un péché, il n'avait aucune solution pour. Il n'y avait que la condamnation qui l'attendait. Alors, certes, il y avait des sacrifices à l'époque, mais ça couvrait seulement le péché, nous dit Hébreux. Il faudra que Jésus vienne pour vraiment effacer totalement ce péché. Et puis, mais ça on ne le savait pas, on était esclaves de Satan. Allez dans la rue en disant aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur, vous êtes esclaves de Satan. Oui, pas une secte, moi. Je ne vénère pas Satan, mais vous le suivez. La Bible nous dit c'est le prince de ce monde. Alors, on l'a tous fait sans le savoir, ou en le sachant un petit peu. Mais voilà, le prince de ce monde trompe tout le monde, et tout le monde le suit. Et puis, un jour, on se retrouve en enfer avec lui, et lui, il fera. Je vous ai bien eu. Hein. Vous avez bien vécu, vous ne voulez pas de Dieu, c'est bien fait pour vous. Il trompe les gens. Voilà l'état de l'homme sans Christ, prisonnier de son péché, prisonnier de Satan, j'ai envie de dire, prisonnier de sa situation, et on a beau essayer de se débattre dans tous les sens, mais on ne peut rien faire. Il ne peut absolument rien faire pour son péché. Il y en a qui essaient de faire des œuvres, ça ne sauve pas, nous dit la Bible. On peut aller à Lourdes, hein, comme certains le font en ce moment, ça ne vous sauvera pas. Ça vous fera un peu de sport, éventuellement si vous allez à pied, comme certains, mais bon. Mais voilà, l'état de l'homme. Et c'est bien de s'en souvenir qu'on était dans un tel état. Hein. Parce que quand on se convertit, il faut qu'on comprenne cet état-là. C'est terrible, en fait. Hein. Et quand on se repent, justement, c'est parce qu'on était dans un état comme cela. Et on demande pardon au Seigneur. Et pour comprendre le rachat, il faut aussi avoir l'image du marché de l'époque. Pour comprendre cette rédemption, il faut imaginer que vous étiez dans un marché, et il y avait trois étapes dans ce marché. En fait, on était esclaves dans le marché du diable. On pourrait dire ça comme cela, avec tous les autres qui sont perdus. On était là, on n'avait pas trop conscience, un peu ou pas, mais on ne pouvait rien faire pour en sortir. Bloqué. Alors, la première étape, c'était la validation du rachat. Ben, c'est le Père, hein, avec son Fils, qui accepte que Jésus va descendre sur la terre pour mourir sur cette croix et pour apaiser la colère que Dieu a à l'encontre du pécheur. Parce que Dieu est en colère sévèrement. Ben, alors, le monde ne le voit pas aujourd'hui, mais un jour, il va le voir. Mais il est en colère contre le péché. Je pense qu'il est aussi en colère parce qu'il a tout donné les moyens pour être sauvé et les gens n'en veulent pas. Si vous donnez les moyens à quelqu'un d'être sauvé en lui disant « t'es pas obligé de traverser l'autoroute, hein, je te donne les moyens pour ne pas le faire » et qu'il y va quand même, quoi s'énerver à un moment, ils sont fous ces gens-là. Mais voilà, première étape, validation du rachat. C'est parti pour le faire. Deuxième étape, c'est le paiement de la rançon, le prix de la rançon. Et ce prix a été payé à Golgotha, Jésus a versé le sang Et il a payé, il a apaisé à ce moment-là le Père, hein, on pourrait parler de doctrine de l'apaisement aussi, mais il a payé là à Dieu ce qu'il fallait pour que Dieu soit apaisé vis-à-vis du pécheur qui se repent, évidemment. Et puis la troisième étape, c'est l'esclave sort. Quelle joie quand on y réfléchit. On sort de ce marché d'esclaves de Satan pour devenir maintenant, et pour rentrer dans le marché, entre guillemets, parce que j'aime pas trop le mot, mais et devenir tranquille, la belle vie, c'est ça ? Non, pour devenir esclave de Christ. On passe de l'état esclave de Satan pour devenir esclave de Christ. 1 Corinthiens 7, 22, il dit « Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. » On aimerait bien s'arrêter là, mais ça continue. « De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. » Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas ça. Mais on est affranchi pour devenir esclave de Christ. Je passe de Satan, tout simplement, à Christ. Voilà un peu l'idée du mot « rachat » dans le Nouveau Testament. Il y a trois mots grecs aussi qui parlent de cette rédemption. Le premier, c'est « agorazo », on pourrait traduire par « acheter » quelque part. Hein, et c'était très en relation avec ce marché, justement. Le mot signifie « acheter sur la place du marché », et ça évoque la vente, par exemple, des esclaves qu'il y avait à l'époque sur le marché. Ça, on ne le voit plus aujourd'hui, évidemment. Mais le mot voulait signifier quelque chose. Pour nous, évidemment, ça décrit le pécheur qui est racheté au marché des esclaves du péché. Christ a versé la somme qu'il fallait au Père pour pouvoir vous racheter de ce marché d'esclaves. Et ce n'était possible que par le paiement de ce prix, par la mort de Jésus-Christ. Dans Apocalypse 5, 9, il dit « Et chantez un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation. » Il a payé le prix pour que nous puissions sortir, hein, être achetés, on pourrait dire, de ce marché et pouvoir en sortir. Il y a un second mot qui est exagorazo, qui veut dire retirer de la place publique. Jésus a racheté le pécheur, on l'a vu, de la malédiction de la loi, de l'esclavage, de ce péché, de la condamnation de la loi, et parce que la loi ne sauvait pas, on l'a vu tout à l'heure, hein, révélé que péché, mais le pécheur a été racheté, et le chrétien maintenant, oui, a été retiré, on pourrait dire, pour toujours de ce marché. On ne peut plus retourner dans ce marché d'esclaves de Satan. On était sorti une fois pour toutes. C'est génial. Il n'y a plus de chance qu'on y retourne. Amen. Parce qu'on est sauvé. Sauf si vous n'avez pas fait, si vous n'êtes pas né de nouveau, évidemment, enfin, vous êtes resté toujours dedans, quelque part. Mais quand on est sorti, retiré, hein, une fois pour toutes, on reste avec le Seigneur. Il y a un troisième mot qui est l'outro, on l'avait vu un peu au début, qui parle de libération par paiement d'un prix. Le mot, à l'époque, signifiait ôter le vêtement, peut-être, ou détacher un animal, libérer un prisonnier, mais chaque fois, c'était après avoir payé quelque chose pour que cela se fasse. Hein. On comprend bien l'idée, le croyant a été racheté par paiement d'un prix, par le sang de Jésus-Christ, non pas par de l'argent, hein, mais par le sang de Jésus. Pierre disait, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Rappelez bien qu'on n'a rien pu faire, ce n'est pas de l'argent, on n'a rien fait pour pouvoir être racheté. C'est seulement Christ qui a payé de sa vie pour que nous le soyons. Christ nous a rachetés pour que nous lui appartenons. Dans Tite 2,14, il est dit qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Comme dans l'Ancien Testament, Dieu avait racheté Israël de l'esclavage de l'Égypte, Christ nous a rachetés pour que nous lui appartenons. Vous savez que vous lui appartenez ?
Oui.
On sait qu'on a une relation avec lui, mais quand on parle de appartenir, c'est propriété exclusive. Il fait ce qu'il veut de moi, normalement, techniquement parlant. Et Tite dit ailleurs aussi, et cela doit nous donner du zèle pour lui. Hein, parce que souvent, on est chrétien, on est sauvé, voilà, c'est réglé, la vie est belle. Et on oublie qu'on est esclave de Christ, qu'on est sa propriété, et qu'on est censé être zélé pour lui, comme l'était un esclave autrefois, pour son maître. Hein. On le dit souvent, mais on appelle Jésus-Christ notre Seigneur, ça veut dire à vos ordres. Ça veut dire qu'il faut lui obéir et être zélé pour lui. Il existe deux autres mots qui ne sont pas beaucoup employés dans le Nouveau Testament. Hein. Apolutrosis, qui signifie libération suite au paiement d'une rançon, vous ne trouvez que dans Hébreux 9:15. Ou alors peripoemai, qui veut dire s'acquérir quelque chose ou garder pour soi. On trouve ce mot dans Actes 20:28, où Christ a acquis par son sang l'Église. Ouais. J'aime beaucoup cette expression. Il a donné sa vie pour s'acquérir l'Église. Ce n'est pas mon Église, hein, ce n'est pas votre Église. C'est l'Église qui appartient à Jésus-Christ, parce que nous, on n'a rien payé pour ça. Bon, on paye le bâtiment, mais ce n'est pas, c'est pas l'Église, ça. Hein. On est bien d'accord. Et lui, c'est acquis par sa vie, l'Église de Jésus-Christ. Ça doit nous faire réfléchir dans notre relation avec l'Église aussi. Des fois, l'Église, c'est vraiment l'option dans notre vie de chrétien. Il a tout fait pour que nous puissions avoir cette Église, et moi, je trouve ça formidable. Donc, le racheté passe d'esclave de Satan à esclave de Christ, mais pour le servir et pour le suivre tout simplement fidèlement. Quand on s'intéresse aux caractéristiques et aux effets de cette rédemption, d'abord, la rédemption est gratuite. Il y a beaucoup de choses gratuites aujourd'hui dans la vie. Pas grand-chose. Mais alors, une telle valeur, c'est ça surtout qui est intéressant. Ça, vous ne le trouverez jamais. Alors, il y en a qui payent cher leur salut avec leurs œuvres, avec leur argent, indulgence et je ne sais pas quoi, mais ça ne les sauve pas. Mais la rédemption est gratuite. L'homme ne peut pas payer la rançon lui-même. Vous avez beau sortir votre chéquier, vous ne pourrez absolument rien faire, parce qu'en en fait, on dépend d'un propriétaire. À l'époque, je dépendais du propriétaire qui s'appelait Satan. Je lui appartenais, tout simplement. Volontairement, involontairement, on s'en fiche, on était sa propriété. Et donc, je ne pouvais rien faire parce qu'il n'y avait que le propriétaire qui pouvait dire « je vends » ou « je donne ». L'esclave ne peut pas payer sa liberté, il était complètement coincé. Seul le propriétaire avait la possibilité de dire à un moment « on déclenche une vente, je propose que… » Mais l'esclave ne pouvait rien faire. Donc la rédemption est l'acte volontaire de la part de Jésus-Christ. À un moment, elle a décidé « je vais agir, moi en tant que propriétaire, et je vais donner la possibilité à ceux qui sont perdus d'être rachetés tout simplement. D'abord, je vais payer le prix, et ensuite, ben, si vous le voulez, ben, vous pouvez accéder à cette grâce que je vous fais tout simplement de se sortir de ce marché de Satan. » La rédemption délivre l'homme pécheur de son esclavage et de sa dette. Quand je nais de nouveau, quand je me suis repenti, tout est effacé. Alors nous, on cogite. Hein, on dit, moi, j'imagine surtout l'apôtre Paul, hein, parce que lui, il a tué des chrétiens, etc. Et ces trois jours où il était aveugle, où il a dû, à mon avis, bien méditer. Mais le Seigneur a tout pardonné. C'est formidable. Tout ce qu'on a fait avant, le Seigneur, il a effacé. Nous, des fois, on remet tout ça sur le tapis, pour nous-mêmes, pour d'autres. Mais le Seigneur a tout pardonné gratuitement. Je ne sais pas, quand on y réfléchit un peu, c'est profond, c'est formidable. La rédemption donc délivre l'homme pécheur. Alors Jésus n'a pas payé la rançon à Satan, parce que des fois vous l'entendrez, je ne sais pas si vous avez vu le film Narnia, voilà, de C.S. Lewis, enfin ça a été interprété, on voit que c'est le lion qui va mourir pour Satan d'une certaine manière, mais Jésus n'a pas payé la rançon à Satan, parce que Satan lui n'a rien fiche, surtout que la Bible nous dit que c'est Dieu qui est en colère après l'homme, c'est pas Satan, tout à fait. Il est content de ce qui se passe en ce moment. Mais c'est Dieu qui est en colère contre le péché. Donc Christ a payé la rançon à Dieu seulement. Parce que Dieu était en colère contre les pécheurs et il fallait à un moment qu'il soit apaisé, satisfait. Il y a plusieurs mots qui sont employés en théologie, mais voilà, en payant, cette colère de Dieu est apaisée pour celui qui accepte évidemment d'être racheté. Et on l'a dit, il nous a rachetés pour que nous devenions ses esclaves. La rédemption permet à l'homme de recouvrer sa liberté. On a été racheté pour devenir libre. Et des fois, les chrétiens, par mille et une manières, arrivent à se mettre dans l'esclavage de nouveau parce qu'ils s'inventent des lois, ils deviennent légalistes, etc. On a été racheté pour être libre. C'est bien ça, non ? Libre du péché aussi, parce que quand on ne pêche plus, comment on est ? La fête. On est heureux. Quand on pêche, on est malheureux, on culpabilise, et puis on va voir, j'ai encore recommencé. Bon. Hélas, on pêchera jusqu'au bout, mais on peut de moins en moins pêcher, ça c'est sûr. Mais nous ne sommes plus esclaves de toutes ces choses-là, on est affranchi, on est libre du péché, on est libre de Satan. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là autour de nous et qu'ils vont encore nous tenter, etc., mais on n'est pas obligé d'y répondre comme on le faisait automatiquement autrefois. Et de toute façon, on n'avait pas de solution pour ne pas y répondre. On peut avoir la victoire sur nos péchés, à ce qui paraît. On pourrait même ne plus pécher, techniquement parlant. Il y a quelqu'un qui pêche plus ici. Mais on peut y tendre en tout cas. Hein. Alors, c'est pas moi qui je vais pas vous faire la leçon, parce que je suis comme tout le monde, hein, il ne faut pas croire. Mais cette sanctification que veut le Seigneur dans notre vie, c'est, ça dépend de moi. Est-ce que je la freine ou est-ce que je laisse Dieu travailler dans mon cœur par son Saint-Esprit et j'avance. Et quand on laisse faire le Seigneur et le Saint-Esprit surtout dans notre vie, ben on se rend compte qu'il y a, du travail qui se fait. Alors, ça passe par la douleur, hein. Ce n'est pas toujours très agréable, mais une fois qu'on a abandonné les choses et qu'on regarde en arrière, on se dit quand même, quelle liberté nous avons en Jésus-Christ, quelle liberté. Et c'est ce que veut le Seigneur, hein. Quand il dit ne péchez pas, le Seigneur ne veut pas nous mettre un plomb sur la tête, il sait que quand on ne pêche pas, on est bien, on est heureux et on est libre, tout simplement. Et être croyant, surtout, signifie pour Christ, hein, à partir du moment qu'il nous a rachetés, lui, il ne nous regarde pas comme nous, on regarde, hein, il y a un autre regard. Qu'on est pleinement sa propriété, tout à l'heure on l'a dit, et esclave de Jésus-Christ, et il ne fait pas ce qu'il veut, l'esclave, normalement. Pas parce qu'on est affranchi que maintenant on agit comme on a envie, que ah, moi je décide d'aller là, je vais faire ça, etc. Non, non, j'appartiens à Christ. Comme dit 1 Corinthiens 6, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Quand on essaie d'aller vraiment en profondeur dans la compréhension de ce que ça veut dire, mon petit ego, tu te tais. C'est facile à dire ça. Hein. Oui, mais c'est ça. Je pense que Paul, lui, il l'a vécu. Alors, il était pas à la perfection non plus, parce qu'il s'est jamais vu comme cela. Mais beaucoup ont appris justement à faire taire cet ego de plus en plus, parce que c'est lui le grand problème, hein, c'est la chair aussi quelque part. À partir du moment qu'on arrive à la faire taire de plus en plus et la rendre docile à Dieu, alors on se rend compte qu'on n'appartient plus à nous-mêmes, mais à Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'on appartient à Jésus-Christ, ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire. Hein. On peut encore regarder la télé, enfin, ça dépend quoi. On peut aller en vacances, hein, parce qu'on appartient à Christ. Mais on va le faire avec lui, pourquoi pas. On peut faire un tas de choses en appartenant à Jésus-Christ. Hein, parce que souvent, c'est être esclave de Jésus-Christ, oh là là, c'est dur. Mais non, c'est la liberté, justement. Être esclave, justement, de Jésus rappelle aussi que nous avons des responsabilités en tant qu'esclaves d'obéissance. Un esclave s'imaginait jamais ne pas obéir. Si, il y en a qui le faisaient, mais il finissait crucifié à l'époque, hein, ou tué. Ça nous rappelle que nous devons être fidèles au Seigneur. Le boulot. Ça nous rappelle notre amour pour lui. Mais si je dis aimer Dieu, j'en dis aussi que j'aime mon frère et tout le monde, même mon ennemi, nous dit le Seigneur. Ça nous rappelle qu'on doit avoir une vie de reconnaissance. On est les champions du murmure, du râlement. Hein, enfin, on est tous comme ça. Mais maintenant que je suis libre, je devrais avoir de la reconnaissance plutôt. Et si j'ai vraiment compris ce qu'est le rachat, je sors de ce marché d'esclaves de Satan pour être avec le Seigneur. Mais waouh, quelle chance, non? Ouais. On va recommencer depuis le début, parce que je crois que vous n'avez pas tout compris encore. Hein, mais quelle chance! Alors j'exagère peut-être, évidemment. Mais il faudrait quand même qu'un peu dans le cœur, on a de la chance d'être sorti de ce marché-là. Ça nous rappelle aussi qu'on a un travail à accomplir, parce que si on est devenu esclave de Christ, esclave signifie aussi service, quelque part. Et le Seigneur nous dit dans beaucoup de passages qu'il nous a sauvés pour des œuvres préparées d'avance. Il a aussi dit que nous avons un don, hein, un charisme, à mettre en pratique. Donc nous avons quelque chose à faire pour le Seigneur. Si j'ai compris mon rachat, j'ai compris aussi mon service. Puisque je suis esclave de Christ, j'ai aussi un service à faire. Et un jour, il sera évalué aussi, ce service au tribunal de Christ. On voit que par rapport à cette rédemption, il y a des promesses qui sont liées, et ça c'est ce qui me fait le plus plaisir quelque part. D'abord, on voit deux étapes, on pourrait dire, de cette rédemption. Il y a cet aspect positionnel, je parlais d'un acte juridique, hein, qui a une valeur éternelle. À partir du moment que je suis né de nouveau, j'ai l'assurance de ma rédemption. C'est fini. Plus personne ne peut y toucher. Je suis né de nouveau, le Seigneur m'a racheté, et je ne peux plus retourner dans le marché d'esclaves de Satan. Et même si quelqu'un me pousse là-bas, personne ne peut le faire. Voilà. Comme je dis souvent, moi, mon certificat, il est à côté du trône de Dieu et personne ne peut aller lui arracher. Hein, c'est Dieu qui justifie ses élus. Et puis, l'autre étape, c'est cette rédemption effective. Vous savez que vous allez être un jour... vous savez que vous avez été racheté, mais qu'un jour, vous aurez un nouveau corps. Mais vous ne savez pas ce que c'est. Voilà. Ben, ça deviendra effectif dans l'éternité, par le biais justement de ce corps, quand nous ressusciterons un jour. Là, on va, je pense, prendre pleinement conscience de la dimension de la rédemption. Oh, j'ai plus mal au dos. Tiens, j'ai plus envie de pleurer. Je ne sais pas, vous imaginez, qu'est-ce que ça va être? Je ne vais plus pécher. Là, par contre, ça, je n'arrive pas à imaginer dans ma tête. Mais on sera comme cela un jour. Mais ça deviendra, hélas, effectif seul. Enfin, hélas. Oui, parce qu'on aimerait déjà y être, un peu comme Paul. Hein. Il voulait partir parce qu'il savait ce qu'il attendait. Mais pour l'instant, il devait être sur la terre comme nous pour témoigner. Mais nous serons un jour glorifiés avec ce nouveau corps. Merci Seigneur d'avoir fait tout cela pour nous. Hein. Tu ne nous as pas juste sauvés à la croix. Il y a beaucoup de choses pour l'avenir. Et ça, c'est qu'une petite parcelle de ce que nous dit la Bible. Hein. Dans Éphésiens 13, 14, on l'avait lu tout à l'heure, mais on va le relire si je le retrouve. Bon, on va le lire clairement dans la Bible. En lui, vous avez été... en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage, si j'ai le Saint-Esprit, il prouve que tout ce qui va arriver est vrai, un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Le Saint-Esprit me prouve aujourd'hui qu'un jour, je ressusciterai, que j'aurai ce corps de rédemption. Et donc, c'est une promesse qui est un peu fiable, moyennement fiable, hyper fiable. Je crois qu'il faudrait inventer un mot pour nous dire que c'est vrai et que ça s'accomplira. C'est valide dès ma nouvelle naissance, mais effectivement, ça deviendra effectif au moment où je serai avec le Seigneur. Ça doit nous réjouir tout ça, non?
Oui.
J'espère que vous allez repartir en vous envolant tout à l'heure. Non, bon, plus sérieusement. Nous devons nous réjouir de cette rédemption, mais peut-être aussi la prendre davantage au sérieux. Hein, parce qu'on sait qu'on est sauvé, on sait qu'un jour on va au ciel, mais en attendant, le Seigneur nous laisse du temps. Et c'est ce temps-là qui est précieux. D'abord, en comprenant ce qui est arrivé pour nous dans le salut, je crois que ça glorifie Dieu de comprendre ce qu'est le rachat. Et puis il y a plein d'autres choses, hein, sanctification et apaisement, etc. Mais prendre au sérieux parce qu'il dit que nous sommes son esclave aujourd'hui. On est appelé amis, mais aussi esclaves. On aime bien l'ami, hein. On est pote de Jésus, mais on n'aime pas la notion d'esclave. Alors il ne le voit pas comme l'esclave servile. On serait tous morts déjà. Parce que je ne pense pas qu'on obéit au Seigneur comme il voudrait qu'on le fasse, ça c'est sûr. Mais à nous de réfléchir et en prenant peut-être plus au sérieux notre rédemption, on va comprendre qu'il attend quelque chose de chacun d'entre nous, et c'est surtout que l'on avance et qu'on lui fasse tout simplement plaisir. Terminé, la doctrine de la rédemption nous rappelle notre état. Ça, même si on est sauvé aujourd'hui, on doit quand même se souvenir dans l'état où on était autrefois. C'est pas parce qu'on n'a jamais fait le mal, parce qu'on n'a pas fait des choses, comme des fois on entend des témoignages formidables parce qu'ils viennent de loin, mais on était dans le même état. C'est juste nos actes qui ont changé, mais devant Dieu, on était dans le même état. Et notre incapacité de quitter le péché, de nous sauver, de quitter Satan, mais c'était horrible quand on y réfléchit. C'est bien de s'en souvenir, parce que quand je le comprends, je saisis davantage la liberté que j'ai aujourd'hui en Christ. Mais cette rédemption nous rappelle aussi les souffrances volontaires, et j'insiste sur le mot volontaire, et nécessaire de Jésus-Christ pour le pécheur. Il a dû à un moment décider avec son père que, voilà, il n'y a qu'un seul moyen. Ça devait être une sacrée, sacrée décision. Et vous savez, quand il est mort sur la croix, je dis souvent, mais moi j'en voulais pas à ce moment-là. Et le savait. C'est terrible. Mourir pour quelqu'un qui ne veut pas nous. Bon. Il y en a d'autres qui l'ont accepté à ce moment-là, heureusement. Mais c'est dire combien il nous aime. Cette rédemption évoque aussi le fait que les chrétiens, on l'a dit, esclaves de Jésus-Christ, et ça veut dire qu'on est prêt à lui obéir. On va essayer de faire le maximum. Il sait qu'on est loin d'être parfait, mais si on essaye déjà de faire le maximum, je crois que ça lui rendra gloire. Et surtout, par rapport à cette croix qu'il a acceptée, un petit peu d'obéissance, quand même, hein, par rapport à ce sacrifice, ça le mérite bien. Ça nous rappelle aussi que le chrétien attend son héritage éternel au travers de ce corps, mais il y a plein d'autres choses, et tout cela, c'est aussi en lien avec la rédemption. Sachons vivre dignement, mais aussi en pleine reconnaissance, justement, de cette rédemption, de ce rachat que Christ a fait avant que nous vivions pour l'éternité la perfection. Merci Seigneur pour cela. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité et qui nous rappelle notre salut, certes, mais la dimension et la profondeur de ce salut. En prenant un peu le temps de l'étudier, nous voyons tous les détails, tout ce qui a dû être mis en place pour que le Père, qui était en colère, et justement en colère contre le pécheur, puisse être apaisé. Et vous avez décidé ensemble de d'envoyer Jésus-Christ sur la terre pour devenir simple homme, serviteur et accepter de mourir sur la croix, accepter de payer la rançon par son sang qui a été versé pour que nous qui étions bloqués dans notre péché, dans ce marché d'esclaves, nous puissions en sortir, pour qu'il puisse payer la dette que nous ne pouvions pas payer au Père. Seigneur, nous voulons t'en être reconnaissants ce matin. Nous voulons comprendre l'horreur de ce péché, au travers des souffrances que tu as prises sur toi à cause de ce péché, mais en même temps, nous voulons nous réjouir de la liberté, de l'affranchissement, de la joie d'être ton esclave aujourd'hui, ta propriété. Seigneur, nous sommes loin d'être parfaits dans notre obéissance, dans notre service, dans le don que tu nous as donné, mais peut-être en nous rappelant justement d'où nous venons, donne-nous la joie de vouloir aller de l'avant, de faire mieux en mieux au fur et à mesure dans notre vie. Nous voulons parler aussi à ce monde qui marche dans les ténèbres, que nous puissions leur présenter aussi ce rachat pour qu'ils puissent être sauvés. Que tout le monde soit glorifié, Seigneur, en Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen.